Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Alain. Vous venez comme chaque week-end avec votre main verte. Aujourd'hui, vous nous parlez du plus grand arbre d'Afrique. Et quand on pense arbre géant, on pense séquoia.
Et à juste titre, tant la hauteur qu'ils atteignent parfois est incroyable. Le record du monde est aujourd'hui détenu par un séquoia Saint-Pervirens qui atteint très exactement 115,55 m, soit 3 fois la hauteur de l'Arc de Triomphe ou très précisément 5 fois la hauteur de l'obélisque de la Concorde. Toutefois, l'arbre le plus haut jamais mesuré par l'homme faisait 132,50 m. C'était un eucalyptus et il vivait en Australie à la fin du 19e siècle.
En Afrique, l'arbre le plus haut vit en Tanzanie.
Et c'est une surprise récente. Les botanistes qui parcourent le continent depuis des décennies, voire des siècles, étaient persuadés qu'aucun arbre de plus de 65 mètres n'y vivait, excepté là encore un eucalyptus poussant en Afrique du Sud et mort en 2006. Celui-ci atteignait 81 mètres, mais il n'était pas originaire du pays, mais introduit au tout début du 20e siècle, ce qui au passage montre la rapidité de croissance de certains arbres. Notre arbre donc qui nous intéresse est né en Afrique, il est considéré aujourd'hui avec ses 81,50 m comme le plus grand et il s'appelle Entandrophragma excelsum.
Je ne répéterai pas le nom de cet arbre.
Oui.
Il ressemble à quoi d'ailleurs?
Au bout de ce nom, j'ai cherché s'il avait un nom vernaculaire plus simple à retenir. Eh bien non, je n'en connais pas l'autre. Alors c'est un arbre à feuilles caduques qui appartient à la même famille que l'acajou, mais fort heureusement son bois n'a pas la qualité de ce dernier. Il n'intéresse donc pas les bûcherons, d'autant plus que d'autres arbres à proximité offrent un meilleur bois pour la construction. Enfin, notre Entandrophragma pousse sur les pentes des vallées du Kilimandjaro entre 1200 et 2100 mètres d'altitude dans une région peu accessible, ce qui explique qu'il ait pu atteindre une telle dimension. Et là aussi, il est vrai, profiter d'un sol volcanique difficile à travailler pour les hommes et des conditions parfaites d'humidité et d'ensoleillement.
Deux questions en une seule. Est-il unique cet arbre et quel âge a-t-il?
Il est vieux de 600 ans et il appartient à une colonie d'environ 1 000 000 d'arbres dispersés sur 7 km². Les études au laser menées par les scientifiques indiquent que 13 arbres seulement, 13 pas plus, dépasseraient les 50 mètres, le plus haut atteignant, je le rappelle, 81,50 m. Alors il faut maintenant souhaiter que tout soit fait pour protéger ces arbres témoins d'une époque, je veux dire extraordinaire, d'une hauteur incroyable. Et l'idéal, voyez-vous, serait d'inclure les terres où ils vivent dans le périmètre protégé du parc national du Kilimandjaro. Mais ça, c'est une autre histoire.
On en reparlera peut-être. À présent, vos conseils, Alain Baraton, aux auditeurs de France Inter. Coralie, par exemple. Coralie vous dit « Les feuilles de mon jeune chêne sont couvertes d'une fine pellicule blanche. » Est-ce grave, docteur?
Ça peut l'être. On appelle ça l'oïdium, on l'appelle également la maladie du blanc du chêne. C'est une fine pellicule qui est causée par un champignon et qui, si se venait à se répéter tous les ans, affecterait durablement la santé, voire la vie du végétal. Néanmoins, fort heureusement, dans l'immense majorité des cas, cela est dû à un printemps excessivement pluvieux et chaud. Donc généralement, la chute des feuilles va mettre un terme à ce mal. Et l'année suivante, il n'y aura qu'à surveiller l'évolution.
Et comment est-ce qu'on retire l'oïdium des feuilles?
Alors, il n'y a pas de traitement, j'allais dire, curatif. On peut tenter des prélèvements de prêles. Mais vous savez, le chêne, c'est toujours l'éternel problème. Traiter un petit chêne est à la portée de tous. Traiter un grand chêne est beaucoup plus compliqué. Donc l'occasion de rappeler qu'il faut espacer les végétaux, les installer là où ils ont vraiment les meilleures conditions de vie, en plein soleil bien évidemment, mais dans l'immédiat, donc un petit traitement de prêle au début du printemps devrait en toute logique mettre un terme à la réapparition printanière de l'oïdium ou du blanc.
Maude vous dit qu'elle a envie de planter des rudbeckias dans son jardin, mais ce jardin est très humide. Qu'en pensez-vous?
Elle a raison, le rudbeckia c'est magnifique si vous ne connaissez pas vraiment de nom. C'est comme, je simplifie, comme une très grosse marguerite avec des fleurs jaunes. On en voit souvent, c'est vivace, ça n'aime pas tellement les terres humides. Alors si vraiment on a de l'argile et qu'on veut vraiment du rudbeckia, on va pouvoir l'installer. Mais attention, on limitera bien sûr l'arrosage et surtout plein soleil.
Juliette vous demande pourquoi les automnes colorent vivement certaines feuilles et d'autres moins.
Alors c'est très compliqué parce qu'en fait, vous savez que les feuilles contiennent de la chlorophylle. Et lorsque la plante décide de se séparer en hiver pour annoncer l'arrivée du froid, l'arbre a besoin d'eau. Quand il fait froid en hiver, il anticipe le gel qui va rendre impossible l'absorption de l'eau devenue de la glace dans la terre. Donc pour se séparer des feuilles, que fait-il? Eh bien il va simplement produire à la base de la feuille un petit coussinet au pétiole qui va priver la feuille de la sève et donc celle-ci, pour continuer à vivre quelque temps, va consommer prioritairement la chlorophylle, ce qui fait apparaître les autres pigments jaunes, oranges et rouges. Voilà. Mais il s'avère que de temps en temps, l'automne arrive beaucoup plus brutalement, la pluie, le froid, le vent, quantité d'autres raisons qui fait que les feuilles tombent avant même que le petit coussinet de liège ait pu faire son office. Donc tout est lié. Si nous avons cette année, et ça semble être le cas, un automne tranquille, doux, qui arrive de manière naturelle, il y aura de très belles couleurs. Si malheureusement les gelées arrivent brutalement, alors la feuille tombera avant d'avoir eu le temps de prendre les couleurs.
Dernier conseil que vous demande Nadège, que pensez-vous des désherbants bio comme l'acide pélargonique ?
L'acide pélargonique est très bien, sauf qu'il faut répéter 50 fois dans l'année parce que la durée d'efficacité est très courte et je me demande parfois si il ne serait pas préférable d'utiliser peut-être des produits toxiques, j'en conviens, plutôt que 50 fois dans l'année des produits qui ne le sont pas, car j'ai bien peur que l'accumulation dans la terre de ces produits soi-disant naturels soit peut-être pire que ce que fait la chimie.
Acide pélargonique.
Je me pose la question.
Je crois qu'on dit aussi acide nonanoïque, me semble-t-il. Votre conseil balade du jour, Alain, ça se passe à Bourg-en-Bresse ?
Eh oui, jusqu'au 24 septembre, donc c'est très rapide.
Ce sont les hier, le 24.
Mais c'est encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce sont les vous êtes taquines. Ce sont les Floralies de Bourg-en-Bresse, elles accueillent sur 10 000 m², une vingtaine de villes, des associations, également 10 écoles. Le thème de cette année, c'est l'eau. Ça coûte quand même 15 € l'entrée, mais il y a des tarifs réduits, mais c'est magnifique.
Merci Alain Baraton, et donc à samedi prochain.